Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Bon début de semaine à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les matins à cette heure-ci. RFI vous donne la parole. Vous pouvez commenter l'actualité. Nous parlerons dans 30 minutes de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo avec cette opération militaire unanimement saluée par la communauté internationale puisque l'armée congolaise a annoncé le début des opérations contre les FDLR. Alors les FDLR, ce sont des rebelles Hutu-Rwandais qui depuis maintenant 20 ans sont disséminés dans l'est de la RDC. À noter que l'armée congolaise a décidé de faire cavalier seul. Pas question pour elle, tout du moins dans un premier temps, de faire appel à la MONUSCO, au casque bleu, à la mission des Nations Unies déployée sur le terrain. Cavalier seul, on va en parler. Dites-nous si cette armée congolaise a les moyens effectivement de traquer les FDLR. Comment neutraliser ces rebelles et se dirige-t-on enfin vers une pacification de l'est du pays? Vous continuez à nous rejoindre, déjà sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, évidemment, sont postés. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat et la réflexion. RFI Appel sur l'actualité, c'est la page officielle Facebook de l'émission. Sinon, le standard, évidemment, 33 9 693 693 70 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. En tout cas, si vous êtes à l'est de la République démocratique du Congo, on attend évidemment vos témoignages sur cette opération militaire. Mais d'abord, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité, toutes vos questions pour vous permettre de mieux décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, les journées, les sujets que nous venons par exemple de traiter dans RFI Matin, dans les différentes éditions. Toutes vos questions nous intéressent, donc surtout n'hésitez pas et surtout n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Une première question qui nous vient de Zinder au Niger. Bonjour Abdoul Rachid.
Et bonjour Anne, et bonjour à toute votre équipe.
Merci, merci pour eux. Vous avez des questions, vous, sur ces Français qui partent faire le djihad en Syrie et en Irak?
Oh oui, j'ai appris à travers les médias que certains soldats français quittent les casernes pour combattre auprès des États islamiques. Mmh. J'aimerais savoir quelles sont les mesures prises par la France pour faire face à cela.
Alors c'est vrai que c'est une information RFI que nous vous avons donnée la semaine dernière. Plusieurs anciens soldats français, il serait au moins 10, seraient partis en Syrie et en Irak dans les rangs des djihadistes de l'État islamique. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste des questions militaires à RFI. Merci d'être avec nous. Bonne question posée à l'instant par Abdoul Rachid. De quels moyens dispose aujourd'hui la France, le gouvernement, pour faire face à ces départs d'anciens soldats français vers l'Irak et la Syrie?
Oui, effectivement, ça fait des mois qu'on entend parler de ces militaires français qui seraient partis en Syrie. Alors bien sûr, les autorités françaises restent très discrètes sur la question. À Paris, la Défense a fini par annoncer qu'une dizaine de soldats seraient concernés. Mais attention, pour être exact, vous l'avez précisé, Juan, il faut parler d'anciens militaires français. On évoque le cas de légionnaires, de parachutistes, d'experts en explosifs, mais personne à Paris ne veut donner exactement la liste des unités concernées. D'ailleurs, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a aussi assuré qu'il y avait d'anciens professionnels d'autres disciplines qui avaient rejoint les rangs djihadistes. On se souvient par exemple que durant Serval, l'armée française était tombée sur un Français combattant djihadiste qui était passé par la BAC, la Brigade Anticriminalité en région parisienne. Donc il peut y avoir différents profils. Concernant ces militaires français, On l'a dit, 3000 Français sont susceptibles d'être en lien avec les groupes djihadistes et seulement une dizaine de militaires.
Donc finalement, ce n'est pas énorme quand on voit d'un côté une dizaine d'anciens militaires sur 3000 Français susceptibles d'être en lien avec les djihadistes, ça fait peu finalement.
Oui, et en fait, d'après les informations que j'essaye de collecter, avec David Thompson aussi de la rédaction Afrique, il n'y a pas eu ces derniers mois de militaires français qui auraient déserté, comme le dit notre auditeur, c'est-à-dire qui auraient quitté leur caserne, qui auraient abandonné leur unité pour aller se battre en Syrie ou en Irak. En fait, ce sont plutôt des gens qui ont été militaires pendant un temps, qui avaient quitté l'armée parce qu'ils étaient en fin de contrat ou parce qu'ils se sont fait exclure, et qui par la suite se sont radicalisés au point de rejoindre les combattants djihadistes. Et c'est bien là le danger. Le ministère de la Défense ne s'en cache pas. Voilà ce qu'on dit dans l'entourage du ministre. Notre préoccupation, ce ne sont pas les anciens militaires, mais c'est de prévenir les phénomènes de radicalisation dans les rangs des armées, ah oui. Aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'armée en France, il y a effectivement un organisme qui s'appelle la DPSD, la Direction de la Protection de la Sécurité de la Défense, qui s'occupe de la sécurité des militaires. La DPSD a notamment été particulièrement active en Afghanistan, vous en souvenez peut-être, pour tenter de déjouer ce qu'on appelait à l'époque les Green on Blue. C'était ces soldats afghans que l'armée française formait et qui menaient des attentats contre leurs formateurs français. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Là, c'est un peu différent. Il s'agirait de surveiller ce qui se passe dans les rangs de l'armée française pour éviter les phénomènes de radicalisation, faire en sorte que certains soldats ne soient pas happés par le radicalisme. Vous savez que l'armée recrute dans pas mal de quartiers difficiles où ce type de phénomène s'est développé. Le danger, c'est bien qu'un jeune parte à l'étranger avec son savoir-faire militaire, un jeune militaire, ou alors qu'il agisse de l'intérieur. Souvenez-vous par exemple de la tuerie de Fort Hood aux États-Unis le 5 novembre 2009 par Malik Nadal Hassan, un Américain d'origine palestinienne, qui avait ouvert le feu sur ses camarades militaires, sur une base militaire du Texas. Alors pour renforcer la vigilance et pour répondre à la question de notre auditeur, la DPSD va gagner 65 postes, c'est pas beaucoup, mais enfin, ce service compte aujourd'hui 1 million d'hommes, voilà, pour surveiller ce qui va se passer, ce qui se passe dans les rangs de l'armée française.
Voilà, et on parle de la France, mais d'autres pays sont également concernés. David Thompson, d'RFI, avec qui vous travaillez, Olivier Four, disait la semaine dernière sur notre antenne que des anciens militaires issus d'autres pays sont également partis faire le djihad, et il citait le cas notamment d'un ancien soldat néerlandais qui a été l'un des tout premiers djihadistes partis en Syrie, et c'était déjà en 2012. Merci Olivier Four, spécialiste des questions militaires à RFI, et on remercie évidemment Abdul Rachid qui nous appelait de Zinder au Niger. Il est 9h17 à Paris, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Bonjour Alpha.
Bonjour cher Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Conakry et vous avez une question concernant Guantanamo.
Oui, en effet, mais permettez-moi d'abord de dire que RFI c'est plus que de la radio, c'est une institution qui informe et forme ses auditeurs en temps réel.
Bah écoutez,
et merci à RFI et son personnel.
Eh bah merci à vous de vos encouragements, merci de votre fidélité. Et on vous donne la parole, profitez-en, vous avez des questions donc, je le disais à l'instant, sur Guantanamo.
Oui, en effet, j'ai appris sur les zones de RFI l'apparition en France d'un livre intitulé « Carnet de Guantanamo » écrit par un détenu de la dite prison supposée appartenir à l'Al-Qaïda. À ce sujet, j'ai des questions. Quelle est l'histoire de cet homme et comment est-ce qu'il est parvenu à écrire et à faire sortir ce livre?
Ouais, Mohamedou Ould Slahi, hein, c'est le nom de ce Mauritanien qui depuis près de 13 ans croupit dans la prison de Guantanamo. Et effectivement, il a publié la semaine dernière en France, mais aussi simultanément dans une vingtaine de pays, son journal intime, Les Carnets de Guantanamo, 448 pages, un témoignage terrifiant sur sa captivité. Bénédicte Lombardo est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du domaine étranger chez Michel Lafon, la maison d'édition qui publie en France hein, les carnets de Guantanamo. Avant de répondre à la première question de notre auditeur, à savoir le parcours, l'histoire de cet homme, il faut dire que la publication de ce livre est déjà en soi une réelle histoire.
Oui, tout à fait, parce que c'est un document historique, on peut dire, parce que c'est la première fois qu'un détenu à Guantanamo réussit à faire sortir des carnets, un journal intime, et que ces carnets ont donné lieu à une publication mondiale, simultanée. Donc c'est vrai que c'est un événement mondial.
Et ce qu'il faut préciser et raconter à nos auditeurs, Bénédicte Lombardo, c'est que il a écrit son journal intime évidemment dans sa cellule, mais oui. Très rapidement le manuscrit a été classé secret défense par le gouvernement américain.
Oui, bien sûr, parce que il y avait notamment deux avocates, Nancy Hollander et Sylvia Royce, qui défendaient Mohamedou depuis des années, et qui ont réussi à le rencontrer, et il leur a expliqué qu'il avait besoin d'écrire et de mettre sur sur papier tout ce qu'il avait vécu, toute son expérience à Guantanamo depuis toutes ces années. Et ses avocates ont réussi à faire sortir ces documents. Mais bien sûr, le gouvernement américain a censuré immédiatement de très nombreux passages. C'est comme ça que le livre est d'ailleurs ce qu'on appelle caviardé, c'est-à-dire couvert de gros blocs noirs qui couvrent certains noms, certaines phrases, etc.
C'est-à-dire parfois ce sont des mots, des phrases, voire même des pages entières hein, qui sont remplacées par des blocs noircis. 2600 blocs noircis, donc c'est que la publication a quand même fait l'objet d'une censure de la part du gouvernement américain. On a peu de temps, mais je conseille évidemment la lecture de cet ouvrage aux auditeurs des RFI. Quel est le parcours de ce Mauritanien, Mohamedou Oulslahi?
Alors, Mohamedou, qui a 44 ans aujourd'hui, est né en Mauritanie. Il a fait des études. En fait, il est parti en Allemagne. Il a eu une bourse, donc il est parti faire des études assez longuement en Allemagne, des études d'électronique. Il a passé quelques mois au Canada. Il se trouve qu'en 91, il est parti en Afghanistan rejoindre Al-Qaïda pour lutter contre les communistes qui étaient sur place à Kaboul. Et c'est comme ça qu'il a eu donc des relations avec certaines personnes du mouvement Al-Qaïda. Mais à l'époque, évidemment, en 91, Al-Qaïda n'était pas encore l'ennemi numéro un des États-Unis. Et puis il a abandonné totalement ce combat et il est rentré poursuivre ses études. Et puis en 2000, il est rentré chez lui en Mauritanie. Pour travailler, et c'est là qu'il a été arrêté.
Il a été arrêté, en fait, au lendemain des attentats du 11 septembre, pour son affiliation à Al-Qaïda. Ensuite, il est emprisonné en Jordanie, puis il est conduit en Afghanistan avant d'être transféré, donc, en août 2002 à Guantanamo. Voilà. Et là, voilà, il raconte, en fait, son quotidien à Guantanamo, un vrai cauchemar.
Ben, un cauchemar, bien sûr, puisqu'il est torturé, il subit des humiliations, des privations de sommeil, on le laisse attaché debout pendant des heures et des jours. Tous les détenus sont déplacés de cellule en cellule très souvent. Il subit vraiment des traitements atroces et il raconte tout ça dans le livre. Alors, je dois dire que il faut le dire aux auditeurs, je pense, parce que c'est un témoignage qui, bien sûr, est terrifiant, mais c'est aussi formidable à lire parce que c'est la voix d'un homme qui a un vrai un recul par rapport à tout ce qui s'est passé, qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un de très cultivé, qui parle plusieurs langues et la façon qu'il a de raconter toute cette expérience est vraiment incroyable et va au-delà de la simple horreur de ce qu'il a vécu dans cet enfer, enfin de ce qu'il vit toujours dans cet enfer de Guantanamo.
Les carnets de Guantanamo, 448 pages, c'est publié aux éditions Michel Lafond. Merci Bénédicte Lombardo d'avoir été avec nous et je signale au passage que le livre coûte 18 euros. 33 9 693 693 70. On va parler de la Grèce après la victoire de Syriza. Bonjour Francis.
Bonjour Anne Gomez.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelle est votre question? On vous écoute.
Ma question ce matin porte sur le nouveau parti en Grèce. Le parti d'Alexis Tsipras a décidé de mettre à l'austérité. Alors, j'ai deux questions. Quelles sont les mesures politiques mises en place? Et la deuxième question, est-ce qu'il a réellement les moyens?
Alors, le réseau téléphone n'est pas très bon avec Abidjan, mais on a compris l'essentiel de votre question. Quelles mesures le nouveau gouvernement va-t-il mettre en place pour mettre fin à l'austérité? Kostas Vergopoulos est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'université Paris 8. Alors c'est vrai que dès son premier conseil des ministres mercredi dernier, le nouveau gouvernement Tsipras a annoncé plusieurs mesures anti-austérité. Chaque ministre a même annoncé, on peut le dire, une avalanche de mesures. Mais concrètement, comment Alexis Tsipras va-t-il s'y prendre?
Mais écoutez, il y a une priorité, une urgence d'augmenter le salaire minimum. Qui est de 580 euros en ce moment, il veut le porter tout de suite à 750. Et d'autre part, en général, une hausse de salaire pour redonner du tonus au marché intérieur. Immédiatement.
D'accord.
Et d'autre part, en même temps, parallèlement, il essaye de reprendre la question de la dette extérieure. C'est-à-dire, en ce moment, la Grèce verse à l'étranger près de 10% de son PIB chaque année. Et ce qui fait que le PIB grec est en train de se contracter. Donc, et la Grèce se trouve face à une récession profonde.
Oui. Alors justement, il augmente le salaire minimum, il augmente les salaires de façon générale, ainsi que les petites retraites. Plusieurs milliers de fonctionnaires qui ont été licenciés vont être réembauchés. En même temps, vous le savez bien, Kostas Zergopoulos, les caisses de l'État sont quasiment vides aujourd'hui. Donc comment va faire le nouveau Premier ministre grec pour finalement répondre aux exigences de la population?
Mais je venais de vous dire que comme la Grèce est obligée de payer chaque année 10% de son PIB à l'étranger au titre de la dette, et il compte arrêter cette hémorragie, cette saignée, pour pouvoir payer ses obligations intérieures.
Et voilà. les partenaires européens vont accepter?
Ils sont bien obligés. Hier, il y a eu la rencontre du ministre grec de l'économie avec le ministre français, M. Michel Sapin. Et Sapin a reconnu qu'il y a une urgence pour faire une nouvelle négociation pour aboutir à un nouveau contrat sur la dette.
Oui. Oui, même le FMI indique que la dette grecque ne peut pas être remboursée en l'état. Est-ce que le parti Syriza, c'était la deuxième question de Francis, a les moyens de tenir ses promesses, en quelques mots?
En principe, a priori, il les a. Il a fait preuve de les avoir.
D'accord. Donc vous êtes plutôt confiant. On suivra ça évidemment de très près dans les prochains jours. Merci Francis et merci à vous, hein, Kostas Zergopoulos, d'avoir été avec nous. Alejandro Valente, le chef du service des sports d'RFI, nous a rejoint. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan. Bonjour à tous.
On va parler football, mais exceptionnellement, on ne parlera pas de la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas de question aujourd'hui sur la CAN, mais on a une question sur le Mondial 2022 au Qatar. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Bénin. On vous écoute.
En fait, j'ai entendu sur RFI que le Conseil de l'Europe, dans l'une de ses résolutions, a demandé à la FIFA de revoter l'attribution du Mondial de football 2022 au Qatar. Et ma question est de savoir si cette résolution du Conseil de l'Europe peut-elle vraiment contraindre la FIFA à revoter cette attribution?
Alors, Alejandro, le Conseil de l'Europe qui demande de procéder à un nouveau vote?
Oui, mais évidemment, le Conseil de l'Europe n'est pas maître en la matière, donc c'est un vœu qu'ils émettent et qui s'ajoutent un peu à la cacophonie qui entoure cette fameuse Coupe du Monde 2022. Vous savez que depuis son attribution en décembre 2010, les soupçons de corruption ont émaillé un petit peu le parcours de cette candidature et cette Coupe du Monde qui peu à peu se profile à l'horizon. Mais la décision revient au comité exécutif de la FIFA qui l'a prise en décembre 2010, et pour l'instant il n'est pas question de réviser ce vote.
D'ailleurs, il y a un peu moins de deux mois, Blatter, le patron de la FIFA, prévenait qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un séisme pour retirer l'organisation du Mondial au Qatar.
Voilà, en fait, les séismes, ce serait que Blatter ne remporte pas l'élection à la présidence de la FIFA le 29 mai prochain. Il y a parmi les nombreux candidats qui se sont pour l'instant manifestés contre lui, certains qui évoquent la possibilité de refaire un vote. Mais les travaux sont déjà bien engagés. Ça aurait des conséquences financières très importantes de retirer l'organisation à Qatar. Et donc, ce qui va se passer, c'est que d'ici au mois de mars, on va par contre réviser les calendriers et on va fixer des nouvelles dates pour la compétition afin d'éviter les fortes chaleurs de l'été.
Donc ce sera l'hiver.
Ce sera l'hiver.
Reste à savoir quand en hiver.
Reste à connaître la date précise. Mais vraiment, comme le dit Blatter, il faudrait un énorme séisme pour que les Qatars se voient retirer l'organisation de cette Coupe du Monde.
Donc très peu de chances que la demande du Conseil de l'Europe aboutisse. Merci Alejandro Valente d'être venu répondre à Rodolphe. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain matin. Restez avec nous dans un instant le journal et dans 10 minutes notre débat sur la traque des rebelles des FDLR dans l'est de la RDC. Une traque saluée unanimement par la communauté internationale. On en parle dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.
Priorité santé.
Claire Hédon vous invite.